Moraï Verabotaï, on se trouve ces jours-ci dans une période qui est très triste. C'est une période depuis Yudzaïn Betamouz jusqu'à Tisha B'Av. C'est une période qu'on appelle la période des catastrophes. Il faut faire très attention, on n'a pas le droit de... On doit être endeuillé, on doit se mettre en deuil pour tout ce qui s'est passé. On va expliquer tout ce qui s'est passé. Mais pour commencer, on va expliquer... Chaque année, je raconte cette histoire-là, mais je pense que c'est une histoire qui peut bien nous faire sentir comment on va ressentir le deuil du Beit HaMikdash. Alors, parce qu'il y a une question qu'on peut se demander, la question, ok, comment on va ressentir quelque chose qu'on n'a jamais vécu? Ils étaient pendant le Beit HaMikdash, ils étaient dans le Beit HaMikdash, ils étaient dans la période du Beit HaMikdash. Alors, ils ont connu cette période-là, ils ont vu tous les nissim qui se passaient, tous les nissim qu'il y avait dans le Beit HaMikdash. Ils ont vécu cette période-là, donc si maintenant il n'y a plus de Beit HaMikdash, donc on comprend que pourquoi ils sont tristes maintenant. Mais nous, on n'a jamais vécu. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Le Shulchan Aruch, il nous dit qu'on doit se comporter comme des endeuillés, on n'a pas le droit d'aller à la plage, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de faire plein de choses. Mais pourquoi tout ça? Nous, on n'était pas là, on n'arrive pas à sentir. Comment avoir une sensation pour sentir le deuil? Alors j'avais entendu une très belle histoire. Il y avait une fois une femme qui était mariée avec un mari. Et voilà que pendant 20 ans, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ils sont allés chez tous les rabbanim, chez tous les babotes. Ils ont fait tous les tzipoulim. Ils sont allés chez tous les médecins possibles. Ils ont essayé de tout faire, tous les sgoulottes, tout pour avoir des enfants. Et voilà qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Un jour, voilà que la femme... On lui annonce qu'elle est tombée enceinte. Alors, de suite, dès qu'elle entend ça, imaginez-vous la joie qu'elle a eue, cette femme-là, de savoir maintenant qu'elle est enceinte. De suite, elle achète une chambre pour le bébé qu'elle va avoir. Elle achète tous les jouets possibles, imaginables. Elle fait tout pour accueillir l'enfant avec, comme il faut, comme une femme qui a attendu pendant 20 ans pour avoir un enfant. Et voilà que chaque mois qui passe, c'est encore, elle parle à son bébé, elle s'attache. Arrive le 9e mois, elle a des contractions, on l'amène à l'hôpital, elle rentre dans la salle d'accouchement, et voilà que le mari, lui, il attend sa femme dehors de la salle d'accouchement, et d'un coup, le docteur, il sort avec une tête assez triste. Il dit au mari, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il dit quoi? Il dit voilà, il y a une complication dans l'accouchement. Et il faut choisir, c'est ou la femme ou le bébé. Il faut choisir ou la femme ou le bébé. Le mari, il s'évanouit, on le réveille. On dit, qu'est-ce que tu dessines? Parce qu'il faut signer maintenant. Alors le mari dit, d'un côté, toute ma vie j'ai attendu d'avoir ce bébé-là. Mais d'un côté, ce bébé-là, je ne le connais pas. Mais ma femme, j'ai vécu avec elle. Je me suis attaché. Je vis avec elle. C'est ma moitié. Je ne peux pas me séparer d'elle. Donc, je choisis ma femme. Et il commence à pleurer. Et voilà que maintenant, ils vont chez la femme. Ils lui annoncent ce que le mari a décidé, que lui, il a signé, que c'est la femme... C'est le bébé qui doit partir. Donc la femme, dès qu'elle entend ça, elle a dit, moi, ma pitom, comment c'est possible? Toute ma vie, je sais que moi, je pourrais plus avoir d'autres enfants. Ça y est, c'est le dernier. Les docteurs, ils m'ont dit que cet enfant-là, si il sort pas, j'aurais plus d'enfants. Toute ma vie, j'ai attendu avoir ça. Et c'est mon but dans cette vie-là d'amener un enfant. Toute ma vie, j'ai attendu ça, et maintenant je vais laisser tomber. Non, je préfère mourir moi et que le bébé, il vive. Et voilà, donc il a dit, le médecin lui dit, signez. Elle a signé, et voilà que c'est ce qui s'est passé, malheureusement. La femme, elle est décédée, et le bébé, il est resté en vie. Et voilà que chaque année que c'était l'anniversaire du bébé, c'était aussi l'anniversaire de la mort de la femme. Et voilà que le père, tout ce qu'il attendait, le père, c'était que l'enfant il arrive à la bar mitzvah et qu'il puisse enfin réciter un kaddish pour sa maman. Donc le père, il attendait avec impatience qu'il arrive à la bar mitzvah. Arrive le jour de la bar mitzvah, le père lui fait une bar mitzvah impressionnante. Et voilà qu'arrive le moment qui était tant attendu pour le père. Vas-y, récite un kaddish. Le fils, il prend le kaddish, il récite, il avale tout le kaddish. Alors le papa, il s'évanouit. On le réveille, le papa dit à son fils, il dit, dis-moi, tu veux pas réciter un kaddish pour ta maman? Il dit, mais papa, je l'ai pas connue ma maman. Ok, j'ai récité, mais je l'ai pas connue. Alors qu'est-ce que tu me veux? Le père, il s'évanouit encore une fois. Le père, il se réveille, il dit, ok mon fils, tu l'as pas connue ta maman. Mais est-ce que tu sais que ta maman elle a sacrifié sa vie pour ton existence? Juste pour ça, tu devrais au moins rester un kaddish normalement, parce que tu sais pertinemment qu'elle a sacrifié sa vie pour toi. Ça c'est l'histoire. C'est quoi le nimshal? Nous, on a demandé comment on peut ressentir comment on peut ressentir quelque chose qu'on n'a pas vécu. On n'a pas vécu, donc c'est dur. Bémet, c'est dur. On essaye, on fait genre, on pleure. Les gens, il y en a qui pleurent au Beit Knesset, à Tisha B'Av, ils pleurent quand ils font les keynotes. Il y a quelques... Et ceux qui pleurent, on dit, mais derrière notre pensée, on réfléchit, tu vois, il fait genre, il pleure. Mais qu'est-ce qu'il pleure, hein? Il pleure parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Il pleure parce qu'il a des problèmes dans sa vie, mais il pleure pas parce que... Qu'est-ce qu'il pleure? Il est triste. Il a une belle BM, le type. Pourquoi il va pleurer? Alors, le Nimsha, il est comme ça. C'est qu'en fait, il y a écrit dans la Gemara, dans Kiddushin, qu'il y avait un fils qui faisait Kivudavem, et la Gemara monte à Kama, il faisait du Kivudavem. Alors la Gemara, dans Kiddushin d'Avla Medalef, la Gemara raconte que le fils, il a servi un verre d'eau à son père, et voilà que son père, il s'est endormi. Il y a écrit que le fils, il est resté avec la main tendue tout le temps que son père il dormait, il avait la main tendue. Et l'Agma a dit que grâce à ça, il a réussi à comprendre un certain mizmor dans Tehilim. Mizmor le Asaf. Tosfot, il explique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris... Tosfot, il dit que mizmor le Asaf, ça parle de la destruction du temple. Alors, la question, elle est, pourquoi on dit mizmor le Asaf? Mizmor, ça veut dire on chante. Mizmor, ça vient du mot zmira, c'est chanter. Alors, comment on peut dire on peut chanter quand il y a... Quand on parle de destruction du temple, il fallait dire Kina la Asaf. Kina, c'est les mots appropriés pour Tisha B'Av. Ouais, Kina, c'est un mot de tristesse, non un mot de chanson. C'est ça qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Pourquoi on dit mizmor la Asaf? Parce que c'est vrai que le Beit HaMikdash était détruit. Mais on sait que HaKadosh Baruch Hu, il rêve de résider dans ce monde. Comme ça, il écrit dans la Gemara, qu'il rêve de résider dans ce monde-là. Et HaKadosh Baruch Hu, il était très énervé. Quand on a fauté, il est très énervé. Il a préféré sacrifier sa maison, jeter des pierres et du feu, brûler les pierres et du feu, sacrifier sa maison, plutôt que de brûler et de sacrifier ses enfants, son peuple. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit mizmor la'asaf. Mizmor la'asaf, c'est vrai qu'il y a une tristesse. Mais dans cette tristesse, en fait, il y a une joie. C'est quoi la joie? C'est quand on voit que HaKadosh Baruch Hu, il a préféré sacrifier sa maison que sacrifier le peuple juif. Donc c'est pour ça qu'on chante, parce qu'on est content, ça nous montre son amour envers le peuple juif. Mais d'un côté, ça relie l'histoire qu'on a racontée, c'est-à-dire qu'on a demandé, mais comment on peut être triste? Alors l'introduction de ce shiur, c'est comment on peut être triste? C'est vrai qu'on n'a pas vécu dedans, mais de penser ce sentiment comme le fils avec sa mère. C'est vrai qu'il n'a pas vu sa mère, mais de sentir cette sensation-là, de savoir que sa mère, elle a sacrifié sa vie pour pouvoir faire l'existence de cet enfant-là. Alors nous aussi, c'est vrai qu'on n'a pas vécu, mais on sait que HaKadosh Baruch Hu, il a préféré sacrifier sa maison pour être avec que le peuple juif. Alors ça, juste pour ça, on doit être triste. Ça, c'est le, Ça, c'est le limoud, le moussard qu'on doit prendre. Comment on va passer ces jours-là? Comment, c'est quoi le sentiment? Si on veut pleurer un peu, si on veut être un peu triste, réfléchir à ça. C'est ces moments-là, c'est les moments noirs du peuple juif, c'est-à-dire que les moments depuis Yud-Zayin Bet-Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est les moments que c'est pas, c'est les moments des catastrophes, comme on l'a dit, et c'est le moment que le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, ils sont un peu séparés. Akadosh Baruch Hu, il s'est un peu retiré du peuple. Il a fait Esther Panim, il s'est caché à Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire quoi? Il a sacrifié ce qu'il aimait, ce qui était très cher pour lui. Et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a sacrifié, de penser à ça pour notre existence. Alors, au moins, ces jours-là, quand on nous demande, le Shulchan Aruch, il nous demande de jouer le jeu, ben, jouer le jeu comme il faut, être avel. On peut pas aller à la plage, on peut pas. C'est vrai que moi je sais bien nager, c'est pas dangereux pour moi parce que moi je suis un surfeur. Ok, t'es un surfeur, mais savoir que le Shulchan Aruch il te dit c'est pas bien d'aller à la plage. Pourquoi c'est pas bien? Parce que Akadosh Baruch Hu il a sacrifié sa maison pour ton existence. Donc maintenant sacrifie un peu tes vacances pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la sensation pour comprendre déjà un peu, sentir un peu le ces jours-ci. Maintenant. Il y a écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Tanit. Il y a écrit Beshivasar Betamuz. Donc on commence depuis Shivasar Betamuz. Depuis le 17 Betamuz, il s'est passé 5 choses. C'est quoi les 5 choses? Nishtabru alochot. Ils ont été cassés les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. C'était quelle date? Yudzayin Betamuz. Buta la Tamid. Le Korban Tamid qu'on approchait le matin. Et l'après-midi. Et le soir. C'est un korban Ola. Chaque jour, on amenait deux korbanot. Un le matin, un le soir. Ça s'appelle le korban Tamid, qui montait que pour Hachem. Alors, ce korban Tamid, Yud-Zayin Bet-Tammuz, il a été annulé. Troisième chose, Oufkehaïr. Oufkehaïr, c'est-à-dire qu'il y a une... la ville, elle s'est... Il y a une sorte de brèche, ouais, donc ça fait que... Il y avait plus de... La ville était plus unifiée, elle s'est un peu séparée. Saraf Afosemos et Torah. Il y avait un monsieur qui s'appelait Afosemos, il a brûlé la Torah. Il a pris la Torah, il a brûlé. C'était quand? Yud-Zayin Bet-Tammuz. Vehemid Selem Be'echal. Il a mis une idole dans le Echal, l'endroit le plus saint du Bet-Amidash. Donc il s'est passé, donc la Mishnah nous raconte que Yud-Zayin Bet-Tammuz, il s'est passé 5 choses. Alors on va essayer de détailler un peu les choses. Premièrement, la question qu'on peut demander, il y a écrit, la première chose qui s'est passée, que Moshe Rabbeinu, le Yud-Zayin Bet-Tammuz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi, qu'Akadosh Baruch Hu, il avait écrit, il les a cassées, et Moshe Rabbeinu, il lui a dit merci beaucoup. Donc c'est comme il a cassé les luchot, on est triste. Mais la question qu'on peut se poser, ok, il a cassé les luchot. C'est vrai que c'est quelque chose de grave. Mais après, il en a fait des deuxièmes tables de la loi. Ok, donc si on voulait dire quelque chose de plus fort, on aurait dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot? Parce que ils ont fait la faute du veau d'or. On sait que tout comme ça, le Rabbeinu Bechaï et tous les Rishonim disent que pourquoi maintenant toutes les fautes qu'on fait, c'est un rapport avec la faute du veau d'or. On sait dire que la faute du veau d'or, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose qui s'est passé et c'était un grand événement dans le peuple juif. Donc si maintenant on aurait dû dire Yud-Zayin Bet-Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé dans la Mishnah? Non pas qu'ils ont cassé les luchot, parce que ok ils sont cassés, mais après on les a refait ces luchot, donc on a réparé en quelque sorte. Il fallait dire le Yud-Zayin Bet-Tammuz, ils ont fait la faute du veau d'or. Ça c'est plus grave. Donc la question c'est pourquoi dans la Mishnah il n'y a pas écrit le Yud-Zayin Bet-Tammuz, ils ont fait la faute du veau d'or. C'est ça qui m'intéresse. Et cette faute du veau d'or, elle n'a pas été réparer les chaora. Deuxième question, Bouta la Tamid. Il y a écrit que le Tamid, il a été annulé. Le Korban Tamid est annulé. On sait que dans le Bédamina, je n'ai pas que le Korban Tamid. C'est vrai que le Korban Tamid, c'est le Korban qui ouvrait le bal des Korbanotes. On n'avait pas le droit d'approcher aucun Korbanote avant le Tamid. Et c'était le Korban qui fermait le bal des Korbanotes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'approcher aucun Korban après, à part le Korban Pessah. C'est vrai. Mais il y avait des autres Korbanotes. Alors ok, Bouta la Tamid, mais le Beit HaMikdash il n'a pas été détruit. Donc le Tamid est annulé, mais il y avait des autres Korbanot. Alors qu'est-ce qu'il y a de si grave, Bouta la Tamid? Après, on ne parle que du Tamid là. Qu'est-ce qu'il y a de ce Tamid de spécial? Il y a plein d'autres Korbanot, il y a des Shlamim, il y a des Nedavot, il y a des Moussafim, il y a plein de Korbanot. Pourquoi spécialement? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave de brûler la Torah? Ok, c'est un événement comme un autre. Il y en a plein en France maintenant, des gens malheureusement qui brûlent les Sefer Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a de si Yudin Betamouz de relever ce... Ça a l'air qu'il y a un rapport avec ce qu'on a, avec les louchotes et avec ce qu'on a dit. Parce que, pour répondre à ces questions-là, Nishtabru al-louchot, les louchotes, quand ils sont cassés, il y a écrit dans la Gemara dans Brachot, faites attention, même un rabbin qui a oublié sa Torah, ne lui faites pas de honte. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le Aaron, c'était le Aaron qui était dans l'endroit le plus saint. Dedans, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis les morceaux des louchot. Les morceaux du louchot, on les a mis dans le Aaron. Donc ça veut dire que quoi ? Que les morceaux du Aaron, les morceaux du louchot, ils sont importants. Donc là, l'Agma a dit, alors aussi, même le rabbin, ce rave-là, c'est vrai qu'il a oublié la Torah, mais à un moment, tu le considérais, il est plein de Torah. Ah ok, ben il a oublié, mais c'est un morceau, c'est comme les, il est pas, il est comme les morceaux du des louchot. On voit cette gemara là, que les morceaux des louchot, ils ont un rapport avec l'oubli de la Torah. C'est à dire que il y a écrit dans la gemara dans Bahakama et Bahametzia, il y a écrit que on sait qu'il y a plusieurs shomrim. Il y a des gens qui si tu as besoin de faire garder une bête, de faire garder quelque chose, ça s'appelle, il y a Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel, il y a plusieurs catégories de Shomrim, des gens qui gardent. Et chacun, il a ses dinim, ses halachot. Et il y a une halacha comme ça, par exemple, Shomer Hinam, quelqu'un qui garde gratuitement, s'il a été négligent, il doit payer, mais si on lui a volé, il ne doit pas payer. Mais il y a écrit dans Shomer Sachar, ceux qu'on lui a donné l'argent pour garder, on lui a volé, alors il doit payer propre, puisqu'on lui a payé, donc il doit payer. Mais il y a écrit dans la Gemara que si maintenant les propriétaires ils sont avec lui quand il s'est passé la chose, Béali Mimo, les propriétaires qui sont avec lui, alors tous les chambrim ils ont le même statut et si on lui a volé quand il était là par exemple, il est pas tôt. Ça s'appelle Béali Mimo. Donc ça veut dire que Bali Mimo, c'est-à-dire que si maintenant les propriétaires sont avec lui, il n'a pas ses dinim habituels. Alors, ce qu'on veut dire, c'est quoi notre question ? On aurait dû... Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire dans la Mishnah ? Non pas que les louchot sont cassés, mais on aurait dû dire que... Qu'est-ce qui s'est passé avec Yudin Betamouz ? Qu'ils ont fait la faute du Vaudor. C'est ça qui nous intéresse. Parce que les louchot, il y en a eu des autres. La réponse, elle est comme ça. Tant qu'on avait les louchot, en fait, c'est ça qui nous rattache, nous et Akash Baruch Hu. Tant qu'on a la Torah, les louchot, c'est la Torah, ouais. Tant qu'on a les louchot, alors on a la connexion avec Akash Baruch Hu. On est relié. Et une personne, c'est comme un père avec un fils. Le fils, tant qu'il écoute son père, il est dans la maison, il est dans le cocon familial, il habite dans sa maison. Alors, même s'il fait une grave faute, le papa, il va lui pardonner. Pourquoi ? Parce que c'est son fils et il vit avec eux, donc il pardonne. Mais dès qu'on se détache, il n'y a plus de pardon. Alors, c'est ça l'idée. Nishtabru al-louchot. C'est vrai que les louchot, il y a eu des deuxièmes louchot. Mais est-ce qu'on a mis le point sur Nishtabru al-louchot, que les louchot, ils ont été cassés. Parce que la faute du Vaudor, ok, ils ont fait la faute du Vaudor, mais ils auraient pu faire plein de fautes. Mais tant qu'ils ont un lien avec Jbohu, ils pardonnent. Mais ce qui s'est passé, Nishtabru al-louchot, les louchot, ils ont été cassés. Et c'est ça la catastrophe. Deuxième chose, Boutal Atamid, le Korban Tamid, c'était pas toujours, Moshe Shapira nous disait, le Korban Tamid, comme on l'a demandé, il y a plein de Korbanot. Ma réponse, c'est vrai qu'il y a plein de Korbanot, mais le Tamid, c'est pas un Korban comme tout le monde. Korban Tamid, c'est pas, il disait comme ça, c'est pas un Korban qu'on approchait tous les jours. C'est Tamid. C'est pas tous les jours. C'est pas un Korban qu'on amenait aujourd'hui, on amenait demain. C'est tous les jours. C'est-à-dire que c'est Tamid, c'est-à-dire que c'est sans arrêt. C'est-à-dire que c'est Raboutal Atamid. Dès qu'on sait que demain le Tamid il va être annulé, alors déjà c'est un problème pour aujourd'hui. Ça veut dire que le Korban Tamid, c'est un Korban qui nous montrait le rapport qu'on avait avec Akash Baruch Hu, le lien qu'on avait avec Akash Baruch Hu. C'était que quand on était dans le Beth Amikdash, il y avait que dans le Beth Amikdash, il y avait plein de Nissim. Tous les jours, il y avait du feu qui venait allumer le Misbéar. C'était tout rempli de Nissim. Il n'y a pas de mouche. Il y avait plein de Nissim. L'Agma nous raconte. Donc, et le Korban Tamid, c'est le Korban qui nous montrait que le service qu'on avait avec Hakadosh Baruch Hu, c'est un service qui était constant, qui était Tamid. Tous les jours. Pas tous les jours. C'est-à-dire que c'était sans arrêt. Ouais, c'était quelque chose qui était sans arrêt. Et quand il a été annulé, le Tamid, même si on a amené des autres corbanotes, mais ça faisait, c'était un lien qui était Arai. C'est-à-dire qui était pas quelque chose de fixe. C'est, aujourd'hui j'amène, provisoire. Voilà, c'était un lien qui était provisoire. Et c'est pas ce lien, c'est ça la catastrophe. Bouta la Tamid. Donc déjà, ce qui se passait dans le Beth Amikdash, c'était plus le même service. Le service qu'on était constant, qu'on sentait la Kdusha, on sentait qu'on avait le lien avec Shbaruch Hu. C'était pas une connexion que si on branchait, on était connecté, si on branchait pas, on était. C'était une connexion Wi-Fi, ce qu'on appelle. C'est mamash, on était vraiment toute la journée connecté, tout avec Shbaruch Hu. Barrega que Boutala Tamid, alors ce lien il était arrêté. Ouf Kéahir aussi, c'est la même idée. Dire qu'il y a une brèche. Quoi la brèche? Dire que maintenant, on n'est plus unis. On vit plus. C'est plus la même chose. Il n'y a plus la même unité qu'on était avec tout le monde. Et donc, c'est un problème. C'est Saraf a posté la Torah. Il a brûlé la Torah. C'est quoi il a brûlé la Torah? Brûler la Torah, c'est-à-dire. On a dit, il y a plein d'histoires comme ça en France, dans tout le monde, qu'il y a des sphères qui brûlent, malheureusement. Mais là. Lui, c'est le premier cas. Jusqu'à lui, il n'y avait personne qui aurait osé brûler une Torah. Ok, on peut faire plein de choses qui ne sont pas bien. Mais brûler la Torah, ça, c'est des choses spirituelles, on ne touche pas. On ne touche pas aux choses spirituelles. Chaque nation, même si on n'a pas de respect envers l'autre, mais il y a des choses qui sont sacrées. Les choses qui sont sacrées, on ne se touche pas. On va se toucher corporellement, mais on ne va pas se toucher. Les choses sacrées, ça reste sacré. Le premier qui a osé toucher, c'est forcément cette Torah. Il a osé brûler une Torah. Et comme Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le premier qui s'est jeté dans le bain chaud. Personne n'osait combattre le Ham Israël. Dès que Amalek il a décidé, alors maintenant tout le monde s'est chauffé. La même chose aussi. Forcément, il a brûlé la Torah. C'est le premier qui a brûlé la Torah. C'est le premier qui a osé. Et comme c'est lui qui est le premier qui a osé, il a fait quelque chose qui était que personne n'aurait pensé et imaginable qu'on aurait pu brûler une Torah. C'est quelque chose de sacré, quelque chose qui appartient à Shbokhon, on peut le brûler. C'est comme si tu touches à un ange, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Et lui, il a tenté, il a donné la permission, et il a brûlé la Torah, et c'est ça, Yudzen Betamuz, il a brûlé la Torah. Et Mit Tselem Be'echal, c'est la même chose, il a mis un Tselem Be'echal, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a mis une statue dans le Echal. Et quand on met une statue dans le Khal, vous comprenez que dans Beth Amidash, c'est l'endroit le plus saint, c'est l'endroit. Tu rentres avec ta statue dans l'endroit, dans la maison avec Shbaruch Hu, imaginez-vous. C'est quelque chose de osé. Et c'est ça qu'on relève. Chamisha Dvarim, cinq choses. Chamesh. Ouais? Cinq choses, c'est le Mispar Chamesh, c'est le He. He, c'est que Shbaruch Hu, il a créé le monde avec la lettre He. Ouais? Et cinq choses, ils ont été Keneged. Le Yalkut, j'ai vu un très beau Yalkut. Il y a le Yalkut Shimoni dans Parashat Pinchas. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit Amar Rav Levi, Kadosh Baruch Hu, il avait prévu que chaque mois de l'été, ça devrait devenir un moed. Une fête. Nissan, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en Nissan. Donc le mois de Nissan, Pessah. Iyar, Pessah Sheni, pour ceux qui sont tamés. Sivan, Shavuot, Tammuz, le mois de Tammuz aurait dû être Rosh Hashanah. Av, Yom Kippour. Elul, Sukkot. Tishré, Shmini Atzeret. Comme ça, le Yalkut dit quelque chose de magnifique. Il dit que chaque mois de l'été, ça aurait dû être un Moed. Comme ça, il dit le Yalkut. Et maintenant qu'on a péché, les Meraglim nous ont péché, on a fait la faute du Vaudor. Ah maintenant, ces mois-là, Av, Tammuz, Av, Elul, c'est des mois de tristesse. Tammuz, on sait, Elul aussi, Av, on sait, Elul aussi, c'est un mois de slichot. Et la seule chose qui restait encore, c'est Shmini Atzeret qui est resté le mois de Tishré. Mais sinon, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le mois de Tishré, on a mis Rosh Hashanah, on a mis le mois de Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippour et Sukkot. Shmini Atzeret, il est resté. Mais c'est-à-dire que ces mois-là, ces fêtes-là, ils auraient dû être le mois de Tammuz, Av, Elul, et ils sont passés tous au mois de Tishré. Donc on voit que Bémet, ces mois-là, c'était des mois qu'ils auraient dû être des mois de Moadim. Et à cause de nos péchés, on les a transformés, et on les a mis des mois de tristesse. Il y a écrit dans l'Agma, dans Makot. L'Agma dans Makot, elle dit quelque chose de magnifique. L'Agma, elle raconte... Ougvar aya Rabbi Gamiel et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva malchim baderech. Donc il y a l'Agma raconte qu'il y avait Rabbi Gamiel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva malchim baderech. Ils marchaient dans le chemin. Veshamu kol amona shel Romi. Et ils ont entendu une voix de fête à Rome. Mi palta berichuk 120,000. D'une distance, dans la place de Rome, d'une distance de 120 km. Vetril ou Bochim. Et Rabbi Elazar, Rabbi Yeshua, ils ont commencé à pleurer. Ve Rabbi Akiva, Mesachek. Rabbi Akiva, il rigolait. Amroulo, Mipnemata Mesachek. Ils ont dit à Rabbi Akiva, mais attends, pourquoi tu rigoles? Amalem, Veatem, Mipnemata Bochim. Et vous, pourquoi vous pleurez? Amroulo. Ils sont étonnés, ils ont dit quoi, nous? Allelu, Kushim, Shemishtachavim, Laatzavim, Omikatrim, Lavodat Kochavim, Yoshvim, Betar, Vashket, Vanachnu, Bet Adon Raglenu, Elokenu, Sarouf, Baesh, Velonivke. Ils ont dit, ces gens-là, qui se prosternent à n'importe quoi, qui servent n'importe qui, ils sont tranquilles, ils kiffent, ils coulent la vie, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de tsarot. Va à nous, et nous, notre Beth Amikdash, il a été détruit, notre temple, il a été détruit, il a été brûlé dans le feu, et on ne va pas pleurer. Je ne comprends pas, Rabbi Akiva. Tu entends les gens qui ils s'éclatent, la musique à fond et tout, le cinéma, théâtre, ils font la grosse fête, la grosse ambiance, et quoi? Ils kiffent, quoi, ils font que kiffer, ils n'ont aucun but dans le monde, et nous, notre Beth Amikdash a été détruit à cause d'eux, et on va rigoler. On est triste. Amalem, il leur a répondu, les kach anime sachek. Eh bien justement, c'est pour cela que moi je rigole. Uma leov deretsono. Si déjà ceux qui font la volonté divine, alachat kama vekama. Ma leov deretsono kar. Si déjà ceux qui transgressent la parole divine, akshbochou des récompenses comme ça qui peuvent être tranquilles. Les Oseretsono, celui qui va faire la volonté divine, a fort de raison qu'il va être récompensé. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Shuv Pamachat, Ayu Olim Nerushalayim. Une autre fois, ils montaient à Jérusalem. C'est toujours ces mêmes rabbins, Rabbi Elazar, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva. Kivan Chegiou les Ratsofim, dès qu'ils sont arrivés à Ratsofim, Karou Bigdem, parce que de là, on peut voir le Beth Amikdash, ils ont commencé à déchirer leurs habits. Qui vint chez Guiou l'Arabaït, dès qu'ils sont arrivés dans l'Arabaït, dans le Beth Amikdash, Raou Shual, Shiyotse, mi Beth Kodesh Agodashim. Ils ont vu un renard qui sort du Beth Kodesh Agodashim. Et Trilou en Bochim. Ils ont commencé encore à pleurer, à fond de larmes. Verabé Akiva Mesachek. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il faisait? Encore il rigolait. Amroulo mi Pnemata Mesachek. Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Amalem ibnematem bochim. Encore une fois, chaque fois, au lieu de répondre, il dit, mais pourquoi vous pleurez, vous? Amroulo makom shekatoubo. Un endroit qui est décrit, va zara karev yumat. C'est quoi? L'endroit le plus sacré, le bet kodesh akodashim. L'endroit où que le Kohen Gadol est rentré une fois dans l'année, avec une ficelle. Et si une personne, dès qu'une personne est rentrée, il mourait. Azara karev yumat. Alors une personne, il y avait un détecteur. Il était mort. Varshav Shualim al-Khubo, et maintenant il y a deux renards qui passent, et on va pas pleurer. Velo nivke, on va pas pleurer. À Marlehem, il aura dit les kach animé sacheg. C'est pour cela que je rigole. Dirtiv, parce qu'il est écrit Vaïda el li edim neimanim. Ils vont témoigner des bons témoins. Et Uria Cohen, le prophète Uria, Ved Zecharia ben Ivachayou. Et le prophète Zechariah, la Gemara demande, comme ça écrit dans le passage, il y a écrit, ils vont témoigner le prophète Zechariah et le prophète Uria. La Gemara demande de suite à l'arrêt, elle dit, Vechi Ma'inyan, Uria et Tzel Zechariah. Quel est le rapport Uria avec Zechariah? C'est aucun rapport. Lui il était dans le premier temple et l'autre il était dans. Uria il était dans le premier temple. Et Zechariah était dans le deuxième temple. Donc qu'est-ce que le pasouk il fait une... Il relie le premier Navi qui est dans le premier temple avec le deuxième.
Et ce pasouk est marqué
où? Il est écrit dans Yeshaya. Alors la Gemara demande Vechima inyan Uria et Tzel Zechariah. Répond la Gemara la Gemara demande Uria bamigdash rishon ve Zechariah bamigdash sheni. Uria il était dans le premier migdash et Zechariah dans le deuxième migdash. Et la Tala katuv nevuato shel Zechariah. Benevuato shel Uria, le pasouk il a fait dépendre la prophétie de Zechariah avec la prophétie d'Uria, c'est-à-dire Beuria ketiv lachen bigalchem tzion sade techerash. Chez Uria il y a écrit à cause de vous, non seulement le temple il va être détruit, mais en plus après qu'il va être détruit, ils vont labourer sous ce temple-là, ils vont le labourer. Imagine, non seulement ils vont l'éclater, mais après qu'ils vont le détruire, sur cet endroit-là, qui avait l'endroit le plus que ça, ils vont le labourer. Ça, c'est la première prophétie. Bezechariah Aktiv, et dans la deuxième prophétie, il écrit Od Yeshvu Zekeni Vezekenot Bechavot Yerushalayim. Qui vont s'asseoir, que Yerushalayim va être construite, et tout va bien aller. Les Zekeni, les Zekenot, ouais, tout le monde va être assis dans les rues de Yerushalayim. La Gemara dit Ad Shelon Kaimun Evoato Shel Uria. Tant que la névoie d'Oria n'a pas été accomplie, a été mitzaré, j'avais peur, chez l'autre Kayem névoato chez Zechariah, j'avais peur que la prophétie de Zechariah ne soit pas accomplie. Archa chez Nkaima névoato chez l'Oria, maintenant que la prophétie d'Oria a été accomplie, Beyadoua chez névoato chez Zechariah, mitkayemet, c'est pour cela, je suis sûr que même la deuxième prophétie de Zechariah va être accomplie. Donc en bref, c'est quoi l'histoire là? C'est que encore la deuxième fois, ils montent à Yerushalayim, ils voient un renard sortir, eux ils pleurent, et Rabbi Akiva rigole, il dit pourquoi tu pleures? Pourquoi on pleure? Il y a un renard qui sort de l'endroit le plus saint. Et pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que il y avait deux prophéties. C'est quoi? Une d'Oria, une de Zechariah. Et Rabbi Akiva dit, moi je disais que tant que je n'ai pas vu la première s'accomplir, alors je croyais pas que la deuxième allait s'accomplir. Maintenant que je vois que la première est accomplie, parce qu'il y a des renards qui passent, alors c'est sûr que la deuxième va être accomplie. Belashan azé amroulo Akiva nihamtanu Akiva nihamtanu. Ce langage-là, ils ont dit Akiva tu nous as consolé, Akiva tu nous as consolé. Il y a plusieurs questions, elle est très intéressante cette Gemara, plusieurs questions à poser. On va commencer. Première question, on sait que on a un devoir d'écouter les prophéties des prophètes. Si un prophète qui dit quelque chose, t'as pas le droit de croire que c'est pas vrai. Donc comment c'est possible que Rabbi Akiva, lui, il a dit Tant que je n'avais pas vu la prophétie de Zechariah, d'Oria, je ne pensais pas que la prophétie de Zechariah. Mais attends, mais tu as un devoir d'écouter. Comment tu peux penser que la prophétie ne va pas être accomplie? Première question. Deuxième question, est-ce que Rabbi Akiva, on peut croire qu'il ne croit pas à la prophétie de qu'elle ne va pas s'accomplir? Si il a fait une prophétie, elle va s'accomplir. Deuxième question, c'est quoi ce jeu-là qu'il fait Rabbi Akiva toujours? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Là-bas, on lui dit, pourquoi tu rigoles? Au lieu de répondre, pourquoi il rigole, tu lui dis, et vous, pourquoi vous pleurez? À quoi il joue? Réponds. On répond pas par une question, on répond par une réponse. Troisième question qu'on peut se demander, pourquoi que après la deuxième histoire, ils ont dit, Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu, tu nous as consolés. Pourquoi déjà deux fois on va consoler, nihamtanu, nihamtanu? Et pourquoi que après la deuxième histoire, après la première histoire, ils n'ont pas assez consolé que la deuxième histoire? Tous les mefarchim me demandent cette question-là. Encore une question qu'on voulait demander. On sait qu'on fait la destruction du temple, on la compare avec les contractions d'une femme. Quel est le rapport? Une autre question qu'on demande, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, on sait que à partir de quand il a été brûlé vraiment, vraiment, vraiment le temple, le temps, le 9 au soir. C'est-à-dire quand on commence à faire mincha, c'est le moment où il a brûlé le Betamidash. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a plus les nerfs. Déjà, on pense à la pastèque. On se lève, on s'assied plus par terre. On se lève, on s'assoit. On met les tefilines, alors que le matin, on met pas les tefilines parce qu'on avale. Ah, on met les tefilines. Dans la Mida, on ne surtout pas oublier Nachem. Chacun, connaissez dans les synagogues, chacun Nachem, 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 ça passe de partout. Ouais, c'est comme il y a les Viavo, Nachem, Nachem, Nachem. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On parle dans la Mida, on rajoute quelque chose de spécial. On parle de consolement. Ouais? Consolation. Il faut que. Comment c'est possible? Au moment où. Le moment le plus dur, ça commence à brûler. Le soir, tout le monde est assis par terre. Et le. Ça n'a pas brûlé encore. Quand ça brûle, au lieu de s'asseoir par terre, nous, on se lève et on parle de consolation. C'est dur à comprendre ces choses-là. Pour répondre à toutes ces questions-là, le Gaon Mivilna, il répond quelque chose de très joli. Le Gaon Mivilna, il dit que, justement, quand on arrive à la dernière dalle, c'est quand on est à la dernière dalle que peut maintenant pousser la délivrance, peut naître la délivrance. C'est quand on arrive à la dernière dalle que là arrive la délivrance. Ça veut dire quoi? Il dit, le Gaon Mivilna, il dit, Akadosh Baruch Hu nous a promis qu'il allait nous délivrer. Il nous a promis qu'il y aura un troisième temps qui va descendre dans Hachem, Bekarov. Le Beit HaMikdash, il va descendre. Ça, on a une promesse. Maintenant, tant qu'on n'est pas dans la dernière dalle, pas, tant qu'on n'est pas dans la. On est dans la dernière ligne finale, on a toujours espérance que peut-être que. Non, pas espérance, mais on n'est pas sûr. On n'a pas une promesse encore qu'il va nous délivrer. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il va nous délivrer. Maintenant, quand il va nous délivrer, tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière marche, on est très 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 bas. On peut toujours espérer que, pas espérer, mais on n'est pas sûr que Akadosh Baruch Hu va nous promettre qu'il va nous délivrer. Mais dès qu'on est arrivé au plus bas, on peut pas descendre plus bas. Là, on est sûr que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. C'est ça que Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva dit? Non pas que Rabbi Akiva, il pensait pas que les prophètes, il avait un doute sur les prophètes, mais il disait peut-être que là, peut-être qu'on n'est pas arrivé si bas que ça. Peut-être qu'on n'est pas arrivé si bas que ça. Alors, puisqu'on n'est pas arrivé si bas que ça, donc la prophétie de Zechariah qu'on va être rétabli, Yerushalayim va être reconstruit. Tant que on n'a pas vu la c'est-à-dire quoi, tant qu'on n'a pas vu? C'est vrai qu'Ouria il a dit quelque chose, mais tant qu'on n'est pas arrivé au plus bas, alors peut-être qu'on peut attendre un peu. Mais dès lors qu'il a vu que Ouria, la prophétie d'Ouria, elle était accomplie, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans cette prophétie? Sion Sadeh Techerash. On voit que non seulement le Beit HaMikdash était détruit, mais on laboure. Faut pas exagérer. Détruire, après tu laboures. Imagine, on détruit un Beit HaMikdash en France, et après qu'on l'a détruit, on fait un stade vélodrome on fait un stade direct sur la synagogue. Ça se fait pas. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont labouré à l'endroit le plus saint. C'est-à-dire que c'est la bassesse totale. Quand Rabbi Akiva, il a vu ça, il a rigolé. Pourquoi il a rigolé? Il a dit, ça y est, puisqu'on est si bas, c'est sûr que la prophétie de Zechariah va être accomplie, parce que maintenant, on peut pas être plus bas que bas. Ça, c'est déjà la première réponse. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva, il joue à ce jeu-là? D'abord, dites-moi pourquoi vous pleurez. Après, dites-moi après, je vais vous dire pourquoi je rigole. Parce que Rabbi Akiva, il dit, voilà, le pleur, en fait, c'est quand on pleure, quand on m'explique pourquoi vous pleurez, c'est du pleur que va naître le rire. La femme, quand elle a des contractions, ouais, elle galère, elle en a marre. Mais après, quand le bébé, il sort, elle comprend que toutes ces petites contractions-là, c'était la rigolade à la joie qu'elle a eue maintenant. Alors c'est ça, Rabbi Akiva, il a dit, dites-moi d'abord pourquoi vous pleurez, parce que d'abord, comment ça passe? On pleure, on a la galère, la catastrophe, on descend, et après, de là, ça naît là. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a écrit, depuis le début de la création, il a écrit dans le Zohar et dans plusieurs endroits, il a écrit, Akadosh Baruch Hu bara chashecha vachaze neora. Akadosh Baruch Hu, il a écrit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au début, le monde, il était Rocher. Pas Rocher, c'est-à-dire, c'est l'obscur. Après, va y or. Après, il a mis la lumière. Donc, de là, on voit que la création du monde, Toujours aller comme ça. D'abord, il y a les galères, il y a les tristesses. On est dans le sombre, on est dans le noir. On se trouve dans le noir. Mais après, du noir, il y a la lumière. Et quand on voit la lumière, on comprend que le noir, en fait, c'était pour faire naître la lumière. Du rocher, on comprend que, justement, c'était pour faire naître. C'est ça, Akiva. C'est pour cela que c'est que après la deuxième histoire qu'Akiva dit tu m'as consolé. Pourquoi ? Tu nous as consolé. Parce que c'est là, c'est de la deuxième histoire qu'ils ont compris qu'ils sont arrivés dans un stade de bassesse terrible. C'est là qu'ils ont compris pourquoi il faut rigoler. Pourquoi ? De la première histoire, ils n'ont pas vu qu'ils sont arrivés bas. C'est qu'après la deuxième histoire qu'ils ont compris. Pourquoi deux fois tu nous as consolé, tu nous as consolé ? Parce qu'on sait que Nechama en hébreu, on peut la comprendre deux versions. À la fin de Chumash Bereshit, Nechama c'est genre... C'est Nechama, c'est-à-dire consolation en hébreu. Mais ça peut aussi vouloir dire, ça peut vouloir dire aussi regretter. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu tous les péchés au début de la création, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a regretté. Nechama, ça veut dire regretter. Mais ça peut dire aussi consoler et vouloir construire quelque chose. Alors ça, Akiva Nechamtanu, Akiva Nechamtanu, c'est-à-dire quoi ? On a compris. Akiva, tu nous as. D'abord, première chose, Nechamtanu, c'est-à-dire quoi ? On a compris qu'il faut avoir en quelque sorte une sorte de regret, il faut avoir quelque chose de négatif, nichamtanu, en sorte de négatif. Ouais, une sorte de regret. Regret, c'est négatif. Donc, Akiva, tu nous as consolé. C'est-à-dire quoi ? On a compris qu'il y avait un moment, un stade de négatif. On a vu la bassesse. Mais Akiva, nichamtanu. On a compris que maintenant, ce nichamtanu-là, c'est positif. Que maintenant, on peut espérer à monter plus haut. Et c'est pour cela justement que le jour de Tisha B'Av, le moment le plus intense, le moment où Akadosh Baruch Hu brûle le Beit HaMikdash, à ce moment-là, nous on est en train de se lever, met les tefillin, et qu'est-ce qu'on fait encore ? On dit dans Mincha, dans la tefila, on parle de Nechama, de consolation. Pourquoi on fait ça ? Justement, on dit Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là de la quand il y a le moment le plus intense, la bassesse, le plus bas, on est dans le plus bas, l'endroit le plus bas, que c'est là que peut naître justement la. C'est quand on est le plus bas que là il peut naître la naissance et la geoula du peuple juif. Il y a écrit dans l'agma dans Yoma, Dav Tzadik Tet, et le Rajbam il explique ça dans Bavatra Nundalet. La Gemara a dit que... Non, je me suis trompé. La Gemara dans Yoma d'Af Nundalet et la Gemara dans Bavatra d'Af Tzadiktet. La Gemara raconte comme ça, que quand ils sont entrés dans le Beit HaMikdash, vous savez qu'avant dans le Beit HaMikdash, on a dit qu'il y avait plein de Nissim. Alors les Bnei Israël, quand ils faisaient Aliyah à la Régel, chaque trois fois par an, les Bnei Israël, ils montaient au Beit HaMikdash. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ali à la Régel. Et quand il montait, il écrit dans l'Agma qu'on leur ouvrait les parochettes, le rideau, et ils voyaient les crouvines, c'était les chérubins. Dès qu'ils ouvraient, les chérubins, ils s'enlaçaient comme un homme et une femme. Ouais, comme un homme et une femme. Ils s'enlaçaient, et on disait Réou Chibatrem Lifnam Akam. Regardez l'amour, comme l'homme et la femme, ils sont attachés, hein. Il n'y a pas plus amour que ça. Il n'y a pas plus fort que ça, intense. Akadosh Baruch Hu, il a le même amour envers vous. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers vous, c'est comme cet amour-là. Il y a écrit dans l'Agma que quand ils sont arrivés dans le Beit HaMikdash, après qu'il ait été détruit, ils sont arrivés dans le Beit HaMikdash, ils sont rentrés. L'Agma, elle raconte, ils ont vu les chérubins, qu'ils étaient comme un homme et une femme. Et la question qu'on demande... Attends, mais si les Israël ils font pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, ils font pas la volonté divine. Ils font pas la volonté divine. Comment est-ce possible? D'habitude, c'est quand Akadosh Baruch Hu il a un lien, il est rattaché avec eux qu'ils sont l'homme et la femme ils sont ensemble. Mais si maintenant si Akadosh Baruch Hu et les Israël ils ont plus de lien, parce que s'il y a plus de Beit HaMikdash, c'est-à-dire que le lien entre Akadosh Baruch Hu et les Israël il y a plus de connexion. Donc s'il n'y a plus de connexion, donc les chérubins, ils devraient être au contraire dos à dos comme l'Agmara raconte, et non pas attachés ensemble. D'après ce qu'on a expliqué, c'est Metsuyan, on comprend très bien. Ben justement, c'est au moment où il y a le moment le plus fort et le plus bas, le plus intense, quand le Betamidash est en train de brûler, il est détruit, qu'il n'y a pas plus bas que ça, ça y est, Akshbaruch il n'est plus là. C'est là que peut naître la Géoula, c'est là que peut naître toute la Géoula qu'on attend, Bimira Béaménou, c'est là qu'elle peut naître. Quand elle peut naître, quand on est le plus bas. Et c'est justement, quand ils sont rentrés à Betamidash, ils ont vu les chérubins attachés, pourquoi ? Pourquoi ils étaient attachés ? Parce que pour montrer qu'Akshbaruch, c'est là, c'est bidouk à ce moment-là qu'on peut attendre de renaître une essence. Au début, Rocher, après Or. Au début, l'obscurité, et après, la lumière. Il y a écrit dans l'Agma, dans Yoma, Taftet, Amoudbed, l'Agma, il raconte comme ça. L'Agma, dit, pourquoi le premier Betamidash, il était détruit ? L'Agma, dit, pour trois avérot, Gilou et Arayot, Shfichou Damim, Avdazara. Trois avérot, ils ont fait, les trois péchés les plus graves, ils ont fait, et ces trois péchés-là, l'adultère, l'avodazara, c'est se prosterner contre les idoles, et ils ont tué. Ils tuaient les gens. Ouais, Shfichou Damim, ils tuaient les gens. Et donc ils n'étaient pas des hommes, quoi. Un homme, il a du sechel, il a un gouffre, il a une nefesh. L'avodazara, c'est le sechel, c'est le cerveau. Ça se fait avec le cerveau, on pense à un autre. L'adultère, on le fait avec son corps. Et quand on tue une personne, on tue un nefesh. Donc il y a les trois choses. Ils n'étaient pas des hommes, Akshbaruch il a détruit le premier temple. Deuxième temple, l'Agma a dit, mais pourquoi il est détruit le deuxième temple ? Il y avait tout. Il y avait la Torah, ils étudiaient la Torah, ils faisaient pas la Vérod, ils étaient super. Makara, pourquoi il était détruit ? Répond l'Agma, Sinatrinam. Quand l'Agma dans Gitin Nunvav, l'Agma raconte, Kamsa ou Bar Kamsa. Ouais ? Gitin Nunvav, ouais ? L'Agma, elle répond, l'Agma a dit là-bas que le temple était détruit à cause du Sinatrinam. Il y a des Bachurim dans l'Yeshiva, il y a beaucoup de Bachurim, mais des fois ils sont pas unis. Et justement, dans une Yeshiva, ce qu'il faut, c'est s'unir. On a besoin de s'unir. Chacun doit s'entraider. C'est ça le Vayichan Sham Israël, Ki Ish Echad Belev Echad. Au moment du Matan Sinai, tout le monde était comme un. Imaginez-vous, comme un. Quand ils montaient tous à Aliyah LaRegel, il n'y avait pas un qui se plaignait qu'il était poussé par l'autre. Il y avait de la place pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ou bien parce que Akshbaruch Hu a fait un S, mais on peut expliquer aussi parce que chacun voulait de l'autre. Quand chacun accepte son prochain, alors chacun ne sent pas l'autre. C'est comme chez un homme et une femme, c'est la même chose. Si on accepte, ouais, on est bien attaché l'homme et la femme. Chacun considère, chacun respecte l'autre. On sent pas sa deuxième moitié. Alors l'Agma nous dit que le deuxième temple, c'est Natrinam. Maintenant, on a une autre Gemara dans Nedarim, Daf Pe Alef. L'Agma dans Nedarim a dit, vous savez pourquoi le premier temple il est détruit? Bipne shelo birchu batorah trila. Ils n'ont pas fait la bracha de la Torah comme il faut. Alors chacun explique son explication. Le Ran explique parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah lishma. Il y en a qui disent que la Torah qu'ils étudiaient c'était une Torah qui était universitaire. C'était pas une Torah pour se construire. La Torah, ouais. Quand on étudie la Torah, elle est censée construire l'homme, changer l'homme, ouais, faire monter de l'homme. Elle est bonnée l'homme. La Torah, c'est qu'on prend l'étude de la Torah. Parce qu'on a mis à l'étude de la Torah, mais la Torah, elle change l'homme. Quelqu'un qui est Ben Torah, c'est comme Ben Torah, c'est le fils de la Torah. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas le même. Il a un lien avec la Torah. L'Agma a dit que. Donc il y en a qui disent que la Torah qui est étudiée, ils étudient une Torah en tant que philosophie. C'est pas une Torah parce que. Qui avait une neshama. C'est une Torah sans neshama, c'était universitaire. Mais la question qu'on peut se demander, cette Gemara dans les Darim, elle est un peu contradictoire avec la Gemara dans Yoma, parce que la Gemara dans Yoma nous dit que pourquoi le premier temple était détruit ? À cause des trois Averot. Et la Gemara dans les Darim, elle nous dit que la destruction du temple, elle était à cause de. Il y avait de la Torah. Alors le Mara, il explique, et encore des Sfarim, ils expliquent que c'est vrai que Bémet, pourquoi le premier temple était détruit ? Trois fautes. Ça, c'est la vraie raison. Et ça, c'est l'Agma dans Yoma, Bémed. Le temple est détruit à cause des trois fautes. Mais l'Agma, ce qu'elle te demande, mais comment ils sont arrivés à faire ces trois fautes ? comment on peut arriver à faire ça? Comment on peut arriver à tuer notre Baba Elazar? Ouais, que ce soit l'Ilou Nishmat qui prie pour nous. Comment un juif, bon, qu'il avait un problème, mais comment est-ce possible de tuer son prochain? Comment on arrive à ça? Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à faire de l'adultère? Comment on peut tromper sa femme? Comment on peut arriver à des choses aussi terribles de plus servir son Dieu et de servir quelqu'un d'autre? Comment on peut arriver à ça? La Gemara dit parce qu'il n'y avait pas de Torah. Tout dépend de la Torah, comme on l'avait dit. La Torah, c'est ça notre lien. Celui qui n'a pas de Torah, dès qu'on lâche la Torah, dès qu'on lâche les Luchot HaBrit, donc on n'est plus avec HaKadosh Baruch Hu, alors tout tombe. Il n'y a plus de Torah, Nishtabru HaLuchot, le lien qu'on avait, il n'y a plus de Torah, c'est le début et la fin des catastrophes. C'est le début des catastrophes. Quand on n'a pas de Torah, ouais, on a dit qu'un couple, Ish Veisha Zahu Shrina Benem, pour qu'un couple il puisse tenir, ça n'existe plus maintenant. Dans le monde entier, ça n'existe plus maintenant l'idée du mariage. On se marie, mais 3 mois après on divorce. Qui peut tenir avec une femme? Pourquoi tenir avec une femme s'il y en a plein? Comment on peut tenir? Comment nous on arrive à tenir avec des femmes? Parce que juste avec une femme. Parce que justement, nous, on a la Torah. Et quand il y a la Shrina et la Torah dans un couple, quand on se comporte avec la Torah, donc la Torah c'est ça qui unifie. Rashi dit que le Akshbohu il met le Yud chez l'homme, ça fait Ish, et le He chez la femme, ça fait Isha, ça fait Yud Ke, ouais. Donc c'est ça qui fait que Akshbohu il est avec le couple, et grâce à ça, ça fait, puisque Akshbohu il est avec le couple, alors ça fait que Akshbohu il réside avec nous, il fait tenir le couple. Mais dès que Akshbohu il se retire, alors c'est la fin c'est la fin. Akshbohu il enlève son Yud, il enlève son He, et qu'est-ce que ça fait? Esh v'esh. Une femme et un homme, c'est deux caractères différents. Ils ne peuvent pas s'arranger. Chacun il a son caractère, mais complètement différent, opposé. Qu'est-ce qui les rattache? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fait Echad. Qu'est-ce qu'il est fait Echad? C'est qu'Akshbohu Hu, il est avec lui. Donc c'est encore le nom d'Akshbohu Hu, c'est encore la Torah. Donc ce qu'on demande à Akshbohu Hu, nous on essaie d'avoir, comme on l'a dit au début, cette sensation-là que tu as laissé tomber ta maison pour notre existence. Donc nous on doit se comporter, c'est ces moments là que c'est les moments où ils sont intenses qu'il y avait. Bon, Tchabéav, c'est le moment qui s'est passé aussi, comme la Mishnah dit dans Tanit, plusieurs choses, mais il s'est passé, le premier temple, le deuxième temple ont été détruits, Yudzaïn Betamouz, depuis Yudzaïn Betamouz jusqu'à Tchabéav, il y a des catastrophes, et donc c'est des jours qui sont Akshbohu Kavechol, ils se cachent, et c'est des jours qu'on doit être avec Akshbohu Hu, et avec Akshbohu Hu, quand une personne endeuillée, quand une personne a perdu un proche, ben nous, chacun essaye d'être avec lui. Akshbohu Hu aussi, nous maintenant, on doit. Juste, je lis ces derniers mots, les deux mots de Tosfot, c'est les deux derniers mots de la Maseret Makot, le dernier Tosfot, et les derniers mots de Tosfot, dans les dernières. Dernier Pérec de Makot. Rashi, Tosfot dit comme ça, Vachem, c'est l'histoire de Rabbi Akiva qu'on a raconté, il dit Vachem, Yezakenu, Lirot, Mashiach, Amen. Hachem, Yezakenu, Lirot, Mashiach, Amen. Ce qu'on prie, nous on prie, Mesad Hachem, on prie que ce que Tosfot il a prié à la fin de Masechet Makot, Hachem, Yezakenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse mériter, Lirot, qu'on puisse voir, Mashiach, le Mashiach, Amen, Kenir Hatzon. Amen. Amen.